Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
J'ai parlé parfois d'un mot qui fait sourire, surtout puisque vous parliez tout à l'heure de désert, la Suisse africaine. Mon plus vif désir, mon plus ardent désir et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques, c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine, qui servira non seulement de trait d'union entre les deux parties de l'Afrique, mais dans un avenir prochain, de trait d'union entre l'Afrique et l'Europe.
Moins d'une décennie après avoir conduit son pays à l'indépendance, proclamé dans une ville de Nouakchott encore en plein chantier afin de donner une capitale à la jeune nation qui jusque-là siégeait et était gérée à Saint-Louis au Sénégal, le timide élu de l'Adrar des années 1950 semble désormais avoir définitivement vêtu le manteau de président de la République. Nouakchott est certes toujours en chantier, mais il est parvenu à imposer son autorité aux nombreuses tribus rivales. Il s'est fait une place de choix parmi ses pairs. Son désir d'indépendance l'a même amené à quitter le franc CFA pour créer sa propre monnaie, l'Ouguiya.
J'en appelle à vous tous, chers compatriotes de tous les secteurs de la vie nationale, pour vous inviter à faire preuve d'un engagement encore plus profond pour renforcer toujours davantage notre monnaie. L'entreprise est en effet des plus glorieuses. Et l'étape assurément historique.
Autre décision tout aussi historique, la nationalisation de la Miferma, la célèbre mine de fer de Mauritanie.
Au nom du peuple mauritanien, de son parti et de son gouvernement, je vous annonce la décision que je viens de prendre de nationaliser à partir de cet instant la société des mines de fer de Mauritanie, dite Miferma.
Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mortar Ouldata. Dans cette seconde moitié de la décennie 70, Mortar Ouldada, qui s'est fait réélire pour la troisième fois, est conforté. Sur le plan international, sa voix porte malgré la taille économique de son pays. C'est dans ce climat que va naître ce qui va considérablement ébranler ses certitudes. 14 novembre 1975, la Mauritanie scelle un accord de partage du Sahara occidental, les accords de Madrid. Ce pacte lui cède la partie sud du territoire. Le Maroc, lui, annexe la partie nord. L'Algérie est écartée de ce partage. Monsieur Eli Ould Allah, vous étiez de la délégation qui a signé cet accord de partage du sud du Sahara espagnol. À titre personnel d'abord, étiez-vous réellement favorable à cette annexion?
Personnellement, oui. J'ai fait partie de la délégation qui était à La Haye. J'étais parmi la grande majorité de l'époque était favorable à cette union.
Ne pensez-vous pas que c'était une utopie compte tenu des forces et des moyens financiers en présence?
Nous n'étions peut-être pas en mesure de réaliser cela. Dans cette optique, le choix n'est peut-être pas le meilleur. Disons, on n'avait pas les moyens de cette ambition.
Pierre Messmer, ancien Premier ministre français, ancien administrateur de colonies.
À mon avis, non. Si cette idée était logique du point de vue d'un raisonnement géographique, du point de vue du raisonnement politique, c'était tout à fait différent.
Voici comment, des années après, le président Mortar Ouldada, déjà très fatigué, nous expliquait les raisons de cette annexion du Sahara occidental.
On lui a justifié ce que le Sahara était partie intégrante de la Mauritanie, que avant la colonisation française et espagnole, c'était les mêmes territoires, les mêmes tribus, les mêmes traditions, les mêmes terrains de parcours des nomades. Et à la fin du 19e siècle, quand l'Europe, particulièrement la France, a colonisé l'Afrique, l'Espagne et la France se sont partagés dans la Mauritanie.
En tout cas, l'Algérie qui a été écartée du partage ne peut admettre cette annexion du Sahara occidental. Surtout que l'enjeu économique qu'il représente pour elle est énorme. Elle déclare alors la guerre à la Mauritanie et commence même à y mener des opérations commando. Elle opère par raid dans les villages mauritaniens, mais également par des actions terroristes particulièrement violentes.
Nous sommes victimes d'une agression caractérisée de la part de l'Algérie, qui, au lieu de nous agresser par ses forces armées régulières, nous agresse par l'intermédiaire de mercenaires qu'elle recrute, qu'elle forme, qu'elle arme et qu'elle organise en expédition contre nous à partir de son territoire national. Et ces mercenaires, une fois qu'ils opèrent dans notre pays, reviennent dans leur repère en Algérie.
Désormais, la Mauritanie, en même temps que le Maroc, doit lutter contre une guérilla plutôt bien organisée et particulièrement déterminée. Dès 1973, lors de la création du Polisario, la Libye offre des armes légères qui serviront à attaquer les premières garnisons espagnoles. C'est en 1975 que l'Algérie commence à armer le front Polisario et également en 1976 que cet apport devient massif. L'Algérie offre également des canons de 122 mm, tout le carburant nécessaire et la base arrière de Tindouf, tandis que la Libye livre des transporteurs de troupes, des missiles et des roquettes. La tactique du Polisario est très simple. Elle compte sur sa mobilité et sa connaissance du terrain également appelé Redzou. Elle consiste à attaquer, grâce à des colonnes rapides, des postes militaires, des villes et se replier rapidement vers Tindouf en cas de danger.
Il était 9h10 ce matin lorsque l'ambassadeur de Mauritanie monte dans sa voiture pour aller à l'Assemblée nationale où, selon son entourage, il avait un rendez-vous. Des coups de feu, le diplomate est touché à la tête. Le chauffeur de l'ambassadeur n'a pas perdu son sang-froid. Immédiatement, il a conduit Ahmed Ganahalla à l'hôpital américain où se trouve à l'heure actuelle Bertrand Vanier.
André Lema, vous l'avez dit, l'attentat a eu lieu à 9h10 ce matin et tout s'est passé très très vite. Un témoin m'a raconté la scène, il se trouvait à moins de 10 mètres du lieu de l'attentat.
J'ai entendu des coups de feu, je me suis retourné et puis j'ai vu deux types partir à toute vitesse, à pied. Hein, et ils semblaient, enfin, ils ont tiré sur une voiture qui était ici, qui allait sortir de l'impasse. Les types des jeunes, il y en avait un qui avait le bouc, enfin un barbu. Ils avaient l'air, enfin, des jeunes, 25, 30 ans. C'était des Blancs, hein. C'était des Européens.
Je voudrais vous faire écouter dans un instant une interview que Yves Lorenzo a réalisée au dernier sommet de l'OUA.
Le colonel Boumediene, qui avait fait le déplacement spécialement, a été effectivement assez déçu des résultats de ce sommet. D'ailleurs, vous allez l'entendre.
Malgré l'existence des problèmes, qui sont nombreux, qui sont variés, et là, ce que je crois, elle n'a pas ce seul privilège. Tous les pontiers ont le problème. Malgré l'existence de ces problèmes, les Africains se sont rencontrés, ils ont débattu ces problèmes. Et c'est une façon de faire avancer les choses.
L'important, c'est de participer. C'est peu lorsqu'on se déplace et lorsqu'on est chef d'État.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, Yves Loiseau, c'est qu'également, vous avez rencontré, il y a peu de temps, le président Mokhtar Ouldada de Mauritanie.
Oui, le lendemain même de l'agression du Polisario sur Nouakchott, on avait réveillé le président mauritanien dans la nuit pour lui faire part des coups de feu qui étaient échangés dans la capitale mauritanienne.
Ce raid a été organisé par les autorités algériennes pour perturber le sommet de l'OIA. Et c'est pourquoi nous n'avons pas voulu tomber dans leur panneau, je n'ai pas voulu faire la moindre déclaration autour de ce problème pour ne pas assombrir cette atmosphère de compréhension et de fraternité qui s'est dégagée des travaux du sommet de Libreville. Et je n'ai pas fait mention de cette nouvelle agression de mercenaires algériens contre notre territoire national.
Est-ce que vous avez rencontré le président Boumediene?
Absolument pas. J'ai rencontré beaucoup d'autres chefs d'État, mais je n'ai pas rencontré le président Boumediene.
Est-ce que vous avez rencontré d'autres chefs d'État qui pourraient éventuellement servir de médiateur entre l'Algérie et la Mauritanie dans cette affaire?
Je voudrais très franchement qu'il n'a jamais été question de médiation.
Lorsque nous avons rencontré le président Mokhtar Ouldada, nous lui avons fait écouter ses archives et lui avons demandé comment il pouvait être surpris par la réaction de l'Algérie.
La nature des rapports entre l'Algérie et le Maroc, qui n'était pas toujours cordial, a fait que l'Algérie se trouvait impliquée dans la question. Et cela s'explique par son voisinage et ses relations avec le Maroc et avec la Mauritanie.
Malgré les agressions de l'Algérie, le président mauritanien ne se retire pas du sud du Sahara occidental. Il sollicite et obtient l'aide de la France qui lui envoie des instructeurs et des armes pour défendre l'intégrité de son territoire. Devant les propositions de médiation que lui proposent les autres chefs d'État pour trouver une solution à ce conflit, pour sortir de cette impasse, le président Ouldada reste sourd.
Notre pays considère, et c'est la vérité, qu'il a été agressé par un pays frère et voisin, en l'occurrence l'Algérie.
Cette guerre prend des allures de gouffre financier. Les militaires et les civils ne sont plus unanimes sur les raisons de cet affrontement. Les opposants et certains collaborateurs du président Mokhtar Ouldada rejoignent le front Polisario. L'Algérie, plus riche, continue d'armer les rebelles du Sahara occidental. Bref, le président Mokhtar Ouldada se retrouve empêtré dans une guerre qu'il n'a pas vraiment souhaitée. Bien que l'aide militaire de la France lui soit acquise, le moral des troupes est au plus bas. Le pouvoir du premier président de Mauritanie semble montrer des signes de faiblesse. Au sein même de l'armée, on commence à s'interroger sur le bien fondé de cette guerre si coûteuse. Mardi 18 juillet 1978, on a entendu des bruits de bottes dans la nuit. Les habitants de la capitale Nouakchott sont tirés de leur sommeil par ce message radiodiffusé.
Mauritanienne, Mauritanien, peuple des héros, l'heure en dernier recours de la légitimité nationale, consciente de leurs responsabilités, ont pris le pouvoir. La Constitution, le gouvernement, le Parlement, le parti et tous les organismes de celui-ci sont dissous.
Dans la nuit, le président Mokhtar Ouldada a été renversé par les militaires avec à leur tête un certain colonel Ould Mohamed Salek. Il a été arrêté et conduit dans la prison de Walatan, dans l'extrême sud-est du pays. Sur le déroulement du putsch, beaucoup de versions vont circuler. C'est pourquoi nous avons posé la question au président Mokhtar Ouldada de savoir ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Comment il a été renversé?
J'ai été informé qu'un mouvement se préparait et j'étais en mesure de le combattre.
Pourquoi vous ne l'avez pas fait?
Parce que j'ai voulu éviter à notre jeune armée une déchirure grave. Si j'avais voulu arrêter les principaux meneurs, l'armée aura été décapitée et n'aurait pas pu continuer son combat.
Vous avez dans ce cas préféré qu'on vous décapite, vous?
Oui, j'ai préféré en tout cas risquer de perdre ma place plutôt que de provoquer une guerre civile. Certains des dirigeants de l'armée de l'époque étaient mécontents de ma rigueur au point de vue gestion. Je leur ai dit que je n'accepterai pas que les moyens mis à leur disposition pour faire la guerre soient détournés de leur destination et mangés par ceux auxquels ils n'étaient pas destinés. Et ils ont décidé de faire le putsch.
Comment ça s'est passé exactement?
Ils sont venus me chercher à 5 heures du matin. ils ne m'ont pas du tout brutalisé. Ça, je dois à la vérité de dire que durant mon arrestation, parce que j'étais déporté dans le fond du Sahara, je n'ai jamais à me plaindre du traitement.
24 heures après le coup d'État, entre les officiers qui l'ont perpétré, le torchon brûle. Mais Mokhtar Ouldada ne reviendra pas de suite. Il est incarcéré dans l'est du pays, dans un vieux fort qui servait de prison aux combattants du Front Polisario. Mohamed En Oul Mahmoud Brahim, l'oncle de Mokhtar Ouldada.
Le fort est vétuste. C'est une vieille construction de l'époque coloniale. Abandonné plusieurs fois, où quelquefois ne vivaient que des taupes, des hérissons, des gerboises, il n'y a pas d'autre chose. Il a trouvé avec 40 ou 41 degrés de fièvre. Il était franchement très affaibli. Il était... Et cette faiblesse, cette maladie, ça a été encore renforcée par le fait qu'il ne recevait plus de nous depuis certains temps son courrier.
Le 4 octobre 1979, soit un peu plus d'un an après son renversement, à la tombée de la nuit, un mystère vint du GLAM, le groupe de liaison interministériel français, quitte discrètement l'aéroport de Nouadhibou, une localité située à environ 400 km au nord de Nouakchott. Un seul homme s'est installé à bord de cet aéronef, le président Mokhtar Ouldada. Cette libération est le fruit de nombreuses tractations. Le président raconte les dessous de cette libération, qu'il a obtenue et la contrepartie.
J'ai été parti en France évacuer sanitaire. Mais il y a un arrangement parce que tous mes collègues chefs d'État africains et certains des Arabes sont intervenus auprès du président français Giscard d'Estaing pour obtenir mon évacuation qui devait se traduire par une libération.
Mokhtar Ouldada s'installe alors en exil à Nice dans le sud de la France. En novembre 1980, une cour spéciale est néanmoins créée dans son pays pour le juger en son absence.
L'ex-président mauritanien Maître Mokhtar Ouldada, qui vit en exil à l'étranger, vient d'être condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité. La cour spéciale de justice mauritanienne a également condamné à mort, cette fois par contumace, l'ex-lieutenant-colonel Mohamed Ouldeba Abdelkader, ancien ministre de l'Enseignement. De Nouakchott, une correspondance de Yadli Hassan.
Deux chefs d'accusation sont retenus contre lui. Deux chefs d'accusation de haute trahison, violation de la Constitution et atteinte aux intérêts économiques du pays. Violation de la Constitution, entendez par là la guerre du Sahara, déclenchée en décembre 1975, une guerre considérée par la Constitution de 1961 comme anticonstitutionnelle. Cette Constitution dit dans quelques-uns de ses articles que la souveraineté territoriale est exercée par le peuple à travers ses représentants légitimes. Et toute modification de frontières, cession, échange ou connexion doit se faire par référendum populaire. Or, la Cour estime que rien de tout cela n'a été respecté. Ici, Yadli Hassan, à Nouakchott.
Le silence du président Mokhtar Ouldada intrigue les autorités de Nouakchott qui, en le condamnant, espèrent lui fermer les portes du pays. Il faut dire que les errements du régime qui l'ont remplacé font planer l'ombre de l'ancien président sur le paysage politique national. Les autorités redoutent le retour de l'ancien homme fort. Mais en a-t-il encore les moyens? Est-il vraiment souhaité dans le pays? On en parle dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale, Mokhtar Ouldada. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Archives d'Afrique, Alain Foucault.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Il
mauritanienne, mauritanien, peuple des héros. L'heure en dernier recours de la légitimité nationale, consciente de leurs responsabilités, ont pris le pouvoir. La Constitution, le gouvernement, le Parlement, le parti et tous les organismes de celui-ci sont dissous.
Après 18 ans de règne, le premier président de la République islamique de Mauritanie a été renversé par l'armée. Son projet d'annexion de la partie sud du Sahara occidental a finalement eu raison de son régime. Il a été fait prisonnier et enfermé dans les confins du Sahara occidental. Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique spéciale Mokhtar Houldada. Octobre 1979, soit un peu plus d'un an après son renversement à la tombée de la nuit, un mystère vint du GLAM, le groupe de liaison interministériel français, quitte discrètement l'aéroport de Nouadhibou, une localité située à environ 400 km au nord de Nouakchott. Un seul homme s'est installé à bord de cet aéronef, le président Mokhtar Houldada. Cette libération est le fruit de nombreuses tractations. Le président raconte les dessous de cette libération, qu'il a obtenu et la contrepartie.
J'ai été parti en France évacuer sanitaire. Mais il y a eu un arrangement parce que tous mes collègues chefs d'État africains et certains des Arabes sont intervenus auprès du président français Giscard d'Estaing pour obtenir mon évacuation, qui devait se traduire par une libération.
Mokhtar Houldada s'installe alors en exil à Nice, dans le sud de la France. En novembre 1980, une cour spéciale est néanmoins créée dans son pays pour le juger en son absence.
Deux chefs d'accusation sont détenus contre lui. Deux chefs d'accusation de haute trahison, violation de la Constitution et atteinte aux intérêts économiques du pays. Violation de la Constitution, entendez par là la guerre du Sahara, déclenchée en décembre 1975, une guerre considérée par la Constitution de 1961 comme anticonstitutionnelle.
Le silence du président Mokhtar Houldada intrigue les autorités de Nouakchott qui, en le condamnant, espèrent lui fermer les portes du pays. Il faut dire que les errements des régimes qui l'ont remplacé font planer l'ombre de l'ancien président sur le paysage politique national. Les autorités redoutent le retour de l'ancien homme fort. Installé dans son exil français, le président Mokhtar Houldada décide de garder le silence, de ne plus parler de tout cela. Il parvient à ne même plus exister dans la presse. Pendant 17 ans, c'est le trou noir. Pas une interview, pas une photo, pas une déclaration à un média. Son silence est tel qu'il ne s'exprime pas sur les coups d'État successifs qui vont avoir lieu dans son pays. Au changement de régime à Nouakchott, Mokhtar Houldada ne réagit pas non plus. Un silence assourdissant qui se poursuit avec un autre événement beaucoup plus grave. L'expulsion, en 1989, de 60 000 Mauritaniens noirs que le régime de Nouakchott chasse vers le Sénégal. Le silence de Mokhtar Houldada face à cette tragédie qui touche une partie importante de son peuple et qui écorne et met au grand jour la supercherie, la vacuité du slogan sur l'unité nationale dont il était l'initiateur, fait penser qu'il ne parlera plus jamais. Pourtant, au moment où l'on s'y attend le moins, l'ancien chef de l'État mauritanien décide de sortir de son mutisme en ce mois de mars 1995.
Aujourd'hui, la décomposition des institutions étatiques, l'aggravation des conflits ethniques, notamment depuis les tragiques événements de 1989, la gravité de la situation sociale et l'extrême tension qui règne sur tout l'ensemble de nos frontières me font craindre le pire. Je lance un appel solennel à toutes les Mauritaniennes et à tous les Mauritaniens, quels qu'ils soient et où qu'ils se trouvent, en particulier à la jeunesse mauritanienne, pour qu'ils œuvrent de toute leur foi et de toute leur force afin que notre peuple retrouve son unité dans la diversité, sa dignité, sa liberté et sa place dans la région, en Afrique noire, dans le monde arabe et dans le monde.
Cette sortie spectaculaire va susciter de nombreuses réactions dans son pays, où tous y voient une volonté de revenir. Le président Mokhtar Houldada ne le fera pourtant pas, du moins sur le moment. Il nous expliquait ainsi les raisons de cette sortie médiatique après 17 ans de silence.
Parce que je craignais que la situation dans mon pays se détériore à jamais et que le pays jouait sa carte d'existence. J'avais toujours espéré que ceux qui sont à la tête du pays allaient faire mieux que moi. Je voyais à partir de cette date que l'existence même de mon pays était en danger. Et comme l'intérêt de ce pays et de son peuple ont été mon horizon d'existence pendant une bonne partie de ma vie, j'ai mis en garde les responsables.
En tout cas, cette décision de sortir de son mutisme est interprétée par les différents courants de Nouakchott comme une volonté affichée de revenir sur la scène politique mauritanienne. L'accueil est plutôt tiède. Il faut dire que Mokhtar Ouldadeh est parti depuis plus d'une décennie. Entre-temps, les nouveaux hommes politiques ont fait leur entrée sur la scène nationale. Et les réalités ont connu quelques changements notables. Cette incursion dans le jeu est regardée avec une certaine méfiance. Et pendant longtemps, va se reprendre une rumeur persistante sur son retour. Voici comment réagissait le président, qui avait pourtant déjà plus de 77 ans, à la question de savoir s'il envisageait de revenir au pays. Et pourquoi faire ?
Retourner en Mauritanie, c'est une perspective que j'envisage. Mais je n'ai pas encore fixé de date ni de modalité pratique. Mais me retrouver parmi mes compatriotes sur la terre de mes ancêtres est une perspective qui m'intéresse.
Cette idée, il va la concrétiser peu de temps après. Mariam Ouldadeh.
À partir des années 98, sa santé a commencé à décliner doucement. Je me souviens que 98, oui, nous avons fait une petite réception avec des amis. Bon, il était déjà, sa forme avait un peu diminué, et petit à petit, au fil du temps, jusqu'en 2003, sa santé, tout doucement, a décliné.
En juillet 2001, le président Mokhtar Ouldadeh monte dans un avion pour retourner dans son pays. Il est accompagné de sa femme. Ses enfants sont également du voyage.
Mauritanie, il s'agissait du retour, le retour de Mokhtar Ouldadeh après quelques 23 ans d'exil. L'ancien président renversé en 1978 est donc rentré à Nouakchott. Pas de tapis rouge pour lui, ni même de représentant officiel pour l'accueillir à l'aéroport. Mais en revanche, une foule massée l'attendait.
Notre retour en 2001 s'est fait dans le contexte que je viens de décrire, c'est-à-dire une santé déjà fragile. Je la revois encore descendre de l'avion, d'être assisté. Je vais l'aider un peu, il marche, mais il faut l'assister, il faut l'aider.
Mariam Ouldadeh, l'épouse de l'ancien président.
Nous étions dans l'avion et l'aéroport était désert. C'est quand même, pour un homme comme Mokhtar, qui a créé ce pays, qui s'est sacrifié pendant 20 ans pour lui, sans en tirer rien d'autre que la satisfaction, cela m'a frappé, m'a choqué. Nous quittons l'aéroport, mais la surprise, c'est là que la surprise nous attend, parce que toute la ville de Nouakchott est là, dans les rues. On ne peut pas avancer, mes enfants sont témoins, et d'autres, bien d'autres. Et fait surprenant, et émouvant, et rassurant, les visages qui nous entouraient, qui criaient à nos côtés, étaient des jeunes garçons, et des jeunes filles aussi, des jeunes gens. Donc, l'hommage qui a été rendu au président à ce moment-là, au moment de notre retour, était un hommage populaire, spontané et porteur d'avenir, parce que c'est les jeunes générations, c'est l'avenir du pays. Je suis obligé de dire, aucune autorité officielle n'était là pour nous recevoir, alors qu'on rentrait de 23 ans d'exil pour le président. C'était dommage.
Mokhtar Ouldadeh, qui revient au pays, est déjà très malade. Il est diminué physiquement et éprouve de réelles difficultés à s'exprimer. Mais il garde une grande lucidité.
Pourquoi nous sommes rentrés en 2001 ? C'est la volonté du président et sa seule volonté. Personnellement, j'appréhendais un peu ce retour, je dois dire. pour les raisons que vous devinez aisément, le contexte local, national, la manière dont il a été traité pendant tout son exil, l'indifférence des autorités, quelles qu'elles fussent, hein, qui se sont succédées. Donc j'étais assez... J'ai suivi, c'est lui qui décide. Hein. Donc, ils ont eu beaucoup de visites, qui ont défilé ici. Aucun ancien chef d'État, sauf un, des parents, bien sûr, des amis, jusqu'au moment où le médecin qui s'occupait du président a insisté auprès de moi particulièrement pour dire il faut que le président aille en France, il faut que le président aille en France. Je vais faire une confidence publique que je n'ai jamais faite en public, mais que je vais dire maintenant. Si nous avons tardé à partir en France, alors que c'était urgent en fait, hein, c'est par manque de moyens financiers, je précise, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est grâce à des étrangers que nous avons pu obtenir deux billets vers France à l'époque, tu vois, en première classe, et partir avec le président un peu d'urgence, enfin un peu dans la panique.
Il ne participera quasiment plus à la vie politique nationale. Il décide néanmoins d'écrire ses mémoires, « La Mauritanie contre vents et marées », dont il me fera l'honneur de me proposer de lire le manuscrit avant sa publication. Mariam Ouldada, son épouse.
J'étais dans un appartement particulier d'amis de mes enfants. Et voilà, tout subitement, ses yeux se sont révulsés. J'ai donc appelé tout de suite les pompiers, je dois dire, c'est eux qui nous ont... Le SAMU, exactement, mais les deux, enfin le SAMU est venu tout de suite. Et nous avons été à l'hôpital du Val-de-Grâce, où il est resté effectivement 2 mois dans le coma. Et nous allions le voir évidemment tous les jours, pratiquement tous les jours. Et mes enfants et moi, à tour de rôle, en fonction de leur présence, les amis aussi, le passage, etc. Tout le monde était assez affolé de cette situation. Et un jour, le chef d'État de l'époque, et chacun verra de qui il s'agit, a demandé à aller le voir. Je me suis absolument abstenue d'être présente. Je pense que ça n'était... Je ne voulais pas être présente à ce moment-là. Parce que je trouvais que c'était trop tard. Il était en train de mourir et bon. Certains de mes enfants ont voulu assister pour pas une absence totale. C'était leur choix. Ils étaient adultes et ils ont décidé cela. C'est parfait. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas allée. Le président n'est pas sorti de son coma. Et un soir, j'étais avec un de nos parents de la famille maternelle du président. Nous sommes venus le visiter, comme de coutume. Et nous avons vu qu'il n'était plus à la place habituelle, dans la chambre habituelle. Nous sommes informés, on nous a dit qu'il est dans une autre chambre, à quelques pas. Nous sommes allés. Le président était là, avec moins armé d'appareils respiratoires, beaucoup plus. Ce qui, moi, m'a ravi. Je me suis dit, c'est très bien, c'est bon signe, etc. Et dans la même nuit qui a suivi, on nous a dit, sur une formule, comment la qualifier, brutale, je dirais, Monsieur Ouldada, c'est le médecin qui était au bout du fil, Monsieur Ouldada est décédé. Et il a raccroché.
La mort du premier président de Mauritanie, Mokhtar Ouldada, s'est éteint hier soir à Paris. Il avait 79 ans, 3 jours de deuil dans le pays. Drapeaux en berne, extrait du Coran à la radio et à la télévision.
Il est décédé dans la nuit du 15 au 16 octobre, à 1h du matin. C'est-à-dire à un moment où c'est 11h du soir à Nouakchott et c'est 1h du matin à Paris. Le retour de son corps... En 2003, puisque il avait exprimé, vous vous en doutez, il l'a d'ailleurs fait par écrit, le souhait d'être enseveli, quelle que soit la date de sa mort, qui n'appartient qu'à Dieu, bien sûr, en terre islamique. Quand il était en exil, il ne savait pas s'il serait en Mauritanie, mais à défaut de la Mauritanie, et ça j'ai son testament dans les archives familiales, il voulait être enseveli en terre islamique. Heureusement, il était en terre mauritanienne, il a pu rentrer en terre mauritanienne, et c'est là que le gouvernement mauritanien de l'époque a affrété un avion, sans que j'aie à le demander. J'ai simplement demandé qu'un grand drapeau national, il est aujourd'hui à la Fondation, recouvre son cercueil. Et nous sommes arrivés donc à Nouakchott, pour ramener le président et l'ensevelir ce qu'il avait souhaité, à bout de limite, ce qui a été fait.
À la question de savoir quel bilan il dressait de son passage à la tête de l'État mauritanien, voici sa réponse.
Sans fausse modestie, je dirais que j'étais satisfait de ce qui a été fait. La Mauritanie, quand ils sont autonomie interne, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle n'était qu'une circonscription administrative du Sénégal. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de capitale, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de services. Les services centraux étaient assurés par le Sénégal. En 18 ans, la Mauritanie est devenue un pays crédible. Je crois que c'est délicat de parler de soi, mais ce qui a été fait est énorme, parce que il m'est arrivé, quand j'étais au pouvoir, de me dire à moi-même, tu n'as rien fait, tout reste à faire. Mais quand je compare le moment où j'ai été à la tête du pays et au moment de l'équité, je trouve que l'œuvre a été considérable.
Monsieur Amadou Abdallah, vous qui avez été l'un de ses proches collaborateurs, qui avez été son ministre, avec le recul, quel bilan dressez-vous de son passage à la tête de l'État mauritanien?
Je crois qu'il a certainement fait un effort avec la conviction que c'était dans le bien du pays. Mais je crois que sur le plan économique, c'était très discutable. Sur le plan de gestion de l'administration publique, les services publics, la notion de l'État, c'était également discutable.
Bien que boudé au départ par ses successeurs, Mokhtar Ouldada va progressivement être réhabilité par les autorités qui vont se succéder à la tête de l'État. Mariam Ouldada, sa veuve.
En 2008, le président, ça je vais citer son nom, Mohamedoul Abdelaziz, m'a fait contacter par son protocole et a dit qu'il voulait me voir. J'ai accepté d'aller le voir, je suis rendu à son rendez-vous. Et il m'a dit ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, je souhaite baptiser avec vous la plus grande avenue de Nouakchott du nom du président Mokhtar. J'avoue que les bras m'en sont tombés, il n'y a pas une autre expression. J'étais à la fois surprise et quand même heureuse, parce que c'est la première fois, et vous n'avez qu'à compter, 2008-78. Donc je l'ai remercié, je lui ai dit bien sûr. Tout ça a été fait, une plaque a été découverte par lui, il était à gauche, moi j'étais à droite de la plaque, on a fait une manifestation. Deuxième étape, en 2010 cette fois, à ma demande insistante, je dois dire, la reconnaissance d'utilité publique de la Fondation Mokhtar Ouldada.
C'est par cette reconnaissance tardive, c'est vrai, que se termine notre série d'archives d'Afrique consacrée au premier président de la Mauritanie, Mokhtar Ouldada. Ses mémoires ont été publiées aux éditions Cartala. La Mauritanie contre vents et marées, c'est le titre. La Mauritanie dont on célèbre cette année le 60e anniversaire de l'indépendance, mais où persiste encore, malheureusement, l'esclavage des Noirs. Vous pouvez bien sûr écouter cette série d'émissions sur le site de RFI à la rubrique podcast ou encore sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir comme vous le faites régulièrement sur notre page Facebook, la première sur notre antenne. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous quant à nous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.